Radio Stable.
Morning edition from NPR
News.
Lo que se reproduce dentro de la radio.
France Inter, le 18-20.
Je suis venue aujourd'hui parce que 25 jeunes de chez moi sont jugés parce qu'ils ont défendu en première ligne leur village. Et la moindre des choses que je puisse faire pour ces jeunes gens, c'est de me trouver à leur côté aujourd'hui.
Défendre leur village contre une mine d'or exploitée par les Canadiens. Nous sommes en Grèce, dans l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Une Grèce qui se défend contre une exploitation qui ruine l'environnement. Et vous comprendrez en écoutant Angélique Kourounis. Ce soir, Virginie Pironon nous emmène sous les radars au Nigeria, comprendre les 86 morts de ce week-end. Nous allons également là où des coupures d'électricité empêchent de voir les matchs de foot. Et nous verrons comment les Iraniens ont fait du raffut sous les fenêtres de Ronaldo pour l'empêcher de dormir cette nuit. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 2 et Grégory Phillips. Vous découvrirez la nouvelle figure du Trumpisme, une jeune femme de 28 ans qui est noire. 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger, ce soir en Turquie. Et si il imitera des guillemets, je vous rassure, et si Erdogan était une chance pour la Turquie. Mais avant l'œil sur le sommet européen de cette fin de semaine qui est déjà mal parti, et on n'est que lundi, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
L'idée du mini sommet européen de ce dimanche était de tenter de résoudre, de recoudre, on va dire, quelques plaies en attendant la prochaine mêlée qui sera donc plus dense à la fin de la semaine, le sommet des 28 et 29 juin. En l'occurrence, on a bien vu les plaies, mais pas très bien comment les recoudre. Il y a eu beaucoup de choses au cours de ce sommet. Il y aura beaucoup de choses qui pourront aussi aller avec la métaphore des plaies ouvertes, à commencer par les 9 mois qui nous séparent du Brexit. Et là non plus, on n'y est pas et on y viendra également dans un instant. En attendant, bonsoir François Gémen.
Bonsoir.
Spécialiste des flux migratoires, chercheur à l'Université de Liège et aussi à Sciences Po Paris. Très honnêtement, est-ce qu'on est étonné que les 16 qui se sont vus hier n'aient pas trouvé d'accord avant le sommet des 28 et 29, ou même pas fait semblant de trouver un accord d'ailleurs?
Le seul motif d'étonnement, c'est qu'ils ne se soient pas tapés dessus. Et donc c'est le seul motif de satisfaction, mais pour le reste, bien entendu, il n'y a pas eu d'accord. Les positions sont tellement diamétralement opposées les unes aux autres qu'on voit mal comment il y aurait pu y avoir un accord ou comment il y aurait un accord possible la semaine prochaine. Angela Merkel le reconnaît d'ailleurs à demi-mot.
Alors, est-ce qu'on dit, sincèrement et sérieusement, est-ce qu'on dit que l'avenir de l'Europe est en jeu dans cette affaire de migrants et qu'elle est donc en jeu les 28 et 29 juin prochains, c'est-à-dire jeudi et vendredi?
Oui, clairement, c'est rien moins que l'avenir de l'Europe qui est en jeu, parce que cette question, ce n'est pas une question simplement technique ou d'arrangement de quotas ou de modification des règlements de Dublin. Ce qui est en jeu ici, c'est vraiment une question de valeur. C'est au fond, est-ce que on veut une Europe ouverte sur le monde ou repliée, refermée sur elle-même, refermée sur ses frontières extérieures et intérieures? Est-ce que l'on veut une Europe de la coopération et de la solidarité, ou est-ce qu'au contraire, on va considérer que sur cette question essentielle, c'est chacun pour soi, et donc c'est vraiment les valeurs européennes qui sont en crise pour le moment?
Mais alors, François Gémen, les chiffres disent la chose suivante. Ils disent, par exemple, 40 000 arrivées en 2018, 200 000 en 2014, grosso modo pour ce qui est de la proportion, en fait. Donc, effectivement, moins de gens. Et pourtant, c'est un argument qui ne porte pas. On sent bien que c'est un problème qui est plus un problème politique qu'un problème migratoire. Ce qu'on entend aussi, c'est que les arguments qui frappent, qui devraient frapper comme cela, par exemple, ne portent pas non plus. Donc quel discours? Comment convaincre? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens plutôt que de les stigmatiser en fait en disant ils n'ont rien compris, ils veulent virer tous les migrants? Qu'est-ce qui marche? Quel est le discours qu'il faut tenir aujourd'hui?
Effectivement, ce qui est frappant, c'est de voir comme le débat sur cette question dans le débat public est devenu complètement irrationnel et complètement détaché des réalités. Il y a un fossé béant entre la rhétorique des gouvernements, entre l'état de la situation au niveau politique et la réalité des chiffres qui, comme vous le rappelez, ont été divisés par 3, par exemple, entre 2017 et 2018. Alors, comment faire? Je crois qu'il faut, de la part des gouvernements démocrates, se ressaisir. Il y a aujourd'hui une sorte de schizophrénie qui consiste à penser, chez les gouvernements qui sont restés démocrates en Europe, que c'est en appliquant les recettes de l'extrême droite, en utilisant le vocabulaire de l'extrême droite, qu'on va faire reculer l'extrême droite et reculer les populistes. Je crois au contraire que c'est le moment d'avoir une sorte de sursaut de valeur et de guider les opinions publiques. Les gouvernements se sont trouvés jusqu'ici à la remorque des opinions publiques, et beaucoup de politiques fantasment sur l'état des opinions publiques. Je pense qu'ils les pensent, ils les croient beaucoup plus hostiles aux migrants qu'elles ne le sont en réalité, qu'elles sont inquiètes, préoccupées, anxieuses, bien entendu, puisque c'est le jeu des populistes que de transformer leur situation en une crise et de se draper des habits du manager de crise.
Alors peut-être moins inquiets dans nos pays, est-ce que c'est vrai aussi des Hongrois, des Polonais, de tout ce groupe-là? Est-ce qu'on peut vraiment parler finalement de la même manière, à la fois aux Hongrois, aux Polonais et aussi aux Italiens, aux Français et à d'autres.
Chaque pays, je pense, connaît une réalité très différente en matière de migration. L'anxiété des Hongrois, c'est que leur démographie est déclinante et qu'ils voient quelque part leur pays en train de disparaître peu à peu et qu'ils s'imaginent qu'ils vont être remplacés demain par des migrants. En Italie, très clairement, l'exaspération vient du fait du sentiment d'avoir été complètement abandonné par l'Union européenne, d'avoir été seul à gérer le problème.
Ce qui est d'ailleurs assez juste en soi.
Ce qui est tout à fait juste. Et Matteo Salvini a compris effectivement le profit électoral qu'il pouvait tirer de cette exaspération. Et donc je pense qu'il faut entendre la situation pays par pays et réaffirmer ses valeurs plutôt que de se dire finalement c'est en appliquant les recettes des populistes de l'extrême droite qu'on va les mieux les combattre.
Mais alors du coup, par exemple, alors c'est dans l'air depuis un certain temps, le Premier ministre espagnol, nouveau Premier ministre qui est auréolé désormais de son accueil de l'Aquarius, l'a redit ce week-end, faut-il sanctionner les pays qui refusent la répartition, par exemple? Est-ce que c'est une solution ou est-ce qu'on va dans le mur en sanctionnant ces pays-là?
Honnêtement, je pense qu'on va dans le mur avec un mécanisme de sanction financière. Je pense que ça va encore crisper davantage les opinions. Je pense que ça va augmenter les tensions. J'aurais tendance à dire que la solution la plus viable à l'heure actuelle, c'est la création d'une agence européenne de l'asile et des migrations. Le dossier dans les cartons de la Commission européenne depuis mars au moins. Bien entendu, tous les pays ne voudront pas participer à cette agence. Je pense qu'il faudra commencer par un petit groupe de pays qui effectivement accepteront le coût politique, y compris face à leurs opinions publiques, de participer, de dire nous allons mettre en commun cette compétence et on peut espérer qu'au fil du temps, d'autres pays rejoindront l'agence parce qu'ils comprendront effectivement que cette question n'a de solution qu'européenne.
Mais François Gémen, qui accepterait le coup politique? Regardez ce qui se passe en Allemagne, Angela Merkel qui est dépassée par son ministre bavarois de l'Intérieur. Regardez ce qui se passe en Autriche, regardez ce qui se passe même chez nous. Qui accepte le coup politique? Soyons totalement cyniques, qui a des élections suffisamment lointaines pour se dire après tout, c'est pas grave si pendant 2-3 ans ça flotte?
Peut-être les Grecs. Mais c'est vrai qu'à part ça... C'est vrai qu'à part ça, effectivement, c'est difficile d'en trouver. Et c'est vrai, c'est pour ça que la crise actuelle, c'est une crise de courage politique également. Et le fait que les gouvernements ont quelque part fait le dos rond pendant tout un temps, en 2014-2015, laissant la Grèce, l'Italie agir, en se disant que le problème allait passer et puis qu'après on allait passer autre chose. Il faut réaliser aujourd'hui qu'on est face à une question structurelle et plus une question conjoncturelle. Les gouvernements continuent à traiter ce sujet comme un problème à résoudre, une crise à gérer. Il faut désormais développer un vrai projet politique par rapport à cette question structurelle.
On va parler de ces fameux centres que certains suggèrent. Juste avant, est-ce que on peut s'en sortir en mi-mesure avec des accords bilatéraux? C'est ça qui va se passer en fait ce week-end entre l'Allemagne et l'Italie pour le retour d'un certain nombre de gens, entre nous et l'Italie pour l'accueil d'un certain nombre de gens. Est-ce que c'est comme ça que ça se termine finalement?
Vraisemblablement, c'est en l'état actuel du jeu politique, c'est la solution la plus probable, effectivement, pour le sommet de la semaine prochaine. Ça ne sera pas du tout une solution pérenne à la question. Et effectivement, tant qu'il n'y aura pas de véritable projet politique, et malheureusement, ça fait 25 ou 30 ans qu'on le cherche en Europe sur cette question, il n'y aura pas de solution pérenne et on sera condamné à vivre crise après crise.
Alors, ces fameux centres qui sont, je ne sais pas comment il faut réellement appeler ça, des centres fermés, des centres de rétention. Alors voilà, est-ce qu'on va effectivement jusqu'au mot prison que certains appellent de leur vœu, et nous y compris d'ailleurs, dans les abords de la Méditerranée. Est-ce que là aussi, ce serait la plus mauvaise solution selon vous, François Gémen?
Je pense que ça serait une mauvaise solution. D'abord parce que ça serait une solution contraire aux droits de l'homme qui clairement violerait un certain nombre d'engagements internationaux, notamment le principe de non-refoulement contenu dans la Convention de Genève et qui est une pierre angulaire de la Convention de Genève. Et puis ça mettrait aussi politiquement une pression énorme sur les zones qui devraient recevoir ces centres, que ces zones soient situées en Europe ou aux confins de l'Europe. Et donc je pense que ça ne serait une bonne solution ni juridiquement, ni politiquement, et que ce ne serait ni dans l'intérêt des migrants, bien entendu, ni in fine dans l'intérêt des gouvernements et des citoyens de l'Union européenne.
On a vu que Matteo Salvini, par exemple, était en Libye aujourd'hui. Il suggère l'ouverture de centres de ce type-là, en fait, dans le sud de la Libye. On a bien vu d'ailleurs que les Libyens n'étaient pas chauds non plus, mais c'est une manière, pardonnez-moi l'expression, de refiler la patate chaude, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais aussi... de passer un pacte avec le diable, en fait. Est-ce qu'on en est aussi un peu là? On parle avec les Turcs, on parle avec les Libyens, on ne parle pas avec les plus grandes démocraties qui nous entourent.
Exactement, et c'est clair qu'on a mis quelque part un pied dans la porte ou qu'on a ouvert la boîte de Pandore dès l'instant où on a négocié ce pacte avec la Turquie, une sorte de pacte faustien où on allait vendre son âme en échange d'une solution temporaire à un problème qui paraissait à l'époque insurmontable. Et depuis, on a fait le même type de pacte avec l'Afghanistan et avec la Libye, où là, c'est encore plus problématique, puisque non seulement les migrants sont victimes de violences, d'exactions, de tortures, voire même d'esclavagisme sur le sol libyen, le gouvernement n'a pas du tout la maîtrise de la totalité du territoire. Et donc, négocier avec le gouvernement libyen, ça veut dire condamner des migrants à une mort certaine.
Mais François Gémen, pardon de vous faire lire dans le bar de café, mais du coup, qu'est-ce qui se passe jeudi, vendredi surtout? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe à l'arrivée du prochain bateau? C'est le Lifeline, on sait qu'il est interdit d'arriver en Italie, on sait qu'il n'arrivera pas à Malte, donc bis repetitas. Qu'est-ce qui se passe à partir de vendredi, sérieusement?
Qu'est-ce qui se passe jeudi et vendredi prochain? C'est très clairement les pays dominés par des gouvernements populistes, nationalistes et extrémistes qui vont donner le là. C'est-à-dire que c'est l'Italie, c'est l'Autriche, c'est la CSU de M. Seehofer qui vont donner le là. Les pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et orientale, sont très heureux de se rallier à cela. Toute une série d'autres pays d'Europe occidentale, la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, se rallieront également à cette position. Et je pense la mort dans l'âme, in fine, la France et l'Allemagne se rallieront aussi à cette position. Ça veut dire que quelque part, nos démocraties reculent peu à peu et toute une série de barrières ou de digues, toute une série de mesures qui nous semblaient impensables il y a encore 6 mois ou 1 an, toute une série de vocabulaires qui nous pensaient complètement réservés au champ lexical de l'extrême droite il y a encore 1 an, font désormais partie des mesures communément acceptées, du langage communément accepté.
Ça veut dire qu'on se rallie, nous, y compris à ce que décidera la présidence autrichienne, puisqu'à partir du 1er juillet, donc après-demain, c'est eux qui ont la présidence tournante. On se rallie à ça, nous aussi, en fait.
Je crains bien.
Nous aussi, la France.
Je crains bien que ce soit vers cela qu'on ne va et que quelque part, les gouvernements apeurés, à la fois par l'idée de la montée des populismes un peu partout en Europe et apeurés par l'idée que ce soit le projet européen lui-même qui soit menacé par cela, se rallie à contre-cœur à ces solutions. Je crains qu'on aille vers ça, effectivement.
Mais alors du coup, pardon, il se passe quoi avec les migrants du Lifeline, par exemple, qui vont finir par arriver où? Est-ce qu'on est sur le chemin de l'Espagne encore une fois? Et faudra bien que les gens sortent ce bateau quand même.
Enfin, je ne serais qu'à moitié étonné qu'à un moment donné, on décide de les faire rebrousser chemin vers la Libye, tout simplement. Et je pense que c'est vers cela qu'on ira de plus en plus, c'est-à-dire vers cette logique des pushbacks, comme on appelle ça, c'est la logique de repousser les bateaux à la mer, les repousser vers la Libye, on donnera des milliards d'euros à la Libye en dehors de cela, on fermera pudiquement les yeux sur les mauvais traitements, les tortures, l'esclavagisme et les morts des migrants, et on se dira qu'on a sauvé l'Europe à ce prix, au prix de ce pacte faustien.
François Gémen, est-ce que du coup, Dublin, on n'en parle même plus, Dublin 4, c'est-à-dire essayer de sortir de cette situation qui ennuie terriblement effectivement les Italiens, de forcer les gens à demander l'asile là où ils sont arrivés. Est-ce qu'on n'en parle même plus? Est-ce que c'est même plus d'actualité du tout ou pas?
Tant qu'il n'y aura pas de solution européenne, tant qu'il n'y aura pas de politique d'asile en Europe harmonisée, toute réforme des accords de Dublin sera par nature caduque, nulle et non avenue, puisque Dublin, c'est l'idée que les pays peuvent se renvoyer les migrants en fonction de l'endroit où ils ont débarqué. Et donc, si on est dans cette logique de bras de fer entre les différents pays de l'Union européenne sur le dos des migrants, on va clairement continuer dans cette logique et ça n'a pas de sens de réviser Dublin dans ce cadre.
François Gémen, restez avec nous. Je voudrais qu'on passe un coup de fil à Richard Corbett qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Corbett.
Oui, bonsoir.
Vous êtes député européen, groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. On a eu envie de vous avoir parce que c'est 9 mois qui nous séparent du Brexit, alors qu'on a fêté, c'est pas le mot, alors qu'on a acté, on va dire, le 2e anniversaire du vote. Ce sera aussi un moment important de ce sommet européen. On va parler Brexit ensemble, mais je voudrais quand même votre avis sur ce que vous entendez là, sur le problème des migrants en Europe, parce que d'une certaine façon, l'une des raisons pour laquelle les Anglais ont voté oui au Brexit et ont décidé de sortir, c'est bien celle-là, en fait. Comment vous regardez ces choses-là aujourd'hui, vous, un peu à l'extérieur, par la force des choses?
Oui, en effet, c'était une des raisons pour le résultat du référendum sur le Brexit, mais parce que la campagne pour le Brexit a fait l'amalgame de 3 choses. La migration vers le Royaume-Uni du reste du monde, la majorité de la migration vers le Royaume-Uni n'est pas de l'Union européenne, mais d'ailleurs dans le monde, qui est complètement sous contrôle du gouvernement britannique. C'est un règlement qui n'a rien à voir avec Bruxelles. Deuxièmement, la libre circulation des citoyens européens au sein de l'Union européenne. Et troisièmement, les réfugiés qui sortaient à l'époque de la Syrie. Ils ont dit tout ça, voilà, c'est un total immense, on ne peut rien contrôler parce qu'on est dans l'Union européenne. Ce qui est bien sûr totalement faux. La majorité, c'est une migration économique d'ailleurs dans le monde où c'est le gouvernement britannique qui contrôle. La liberté de circulation intérieure à l'Union européenne, c'est dans les deux sens. Il y a 2 millions de Britanniques dans les autres pays membres de l'Union européenne. C'est assez équilibré, disons. Et malheureusement, ils ont pu faire un amalgame et gagner le référendum.
Richard Corbett, quand on voit ce qui s'est passé chez vous, où on en est aujourd'hui surtout, mais quand on regarde l'Italie, quand on regarde l'Autriche, quand on regarde les pays de l'Est, on en parlait à l'instant, on a un peu le sentiment aussi que finalement l'idée de l'Europe à laquelle on essaye tous de s'accrocher est presque devenue obsolète. Est-ce qu'il peut y avoir aussi ce sentiment-là? Et là aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles on en est là où nous en sommes avec vous les Anglais aujourd'hui.
Oui, mais l'Europe est là pour avoir un cadre où on peut résoudre en commun des problèmes qu'on ne peut pas résoudre tout seul. Et ceci est un problème type de ce genre. Aucun de nos pays est en mesure de résoudre ce problème tout seul. C'est vrai que c'est très difficile de trouver des accords parce qu'il y a, comme l'interlocuteur précédent que vous avez interviewé a très bien expliqué, il y a des situations différentes, des sensibilités très différentes. Mais on est condamné, qu'on le veuille ou non, à trouver une solution commune. Ou au moins à coordonner nos positions.
Richard Corbett, chez vous, il y a eu une grosse manifestation ce week-end, un vote du peuple sur les conditions de sortie, c'est ça qui était demandé. Est-ce que vous avez le sentiment que l'opinion a changé 2 ans après et 9 mois après, avant le divorce total? Est-ce que l'opinion a bougé?
L'opinion publique n'a pas fait ce que tout le monde s'attendait. Tout le monde s'attendait à ce que l'opinion publique se rallie derrière le résultat du référendum. Que les gens diraient, voilà, on a eu notre débat, on a voté, on a décidé, allons-y. Bon, non, l'opinion publique n'a pas fait cela. Elle va même un petit peu dans l'autre sens. Et il y a une évolution plutôt pour dire, voilà, c'était une bêtise.
Sauf que trop tard, Richard Corbett.
Peut-être trop tard, mais il y a, comme vous l'avez dit, toute une campagne qui dit, voilà, votons donc sur l'accord de sortie. Comme ça, les gens peuvent voter en connaissance de cause, pas sur l'idée du Brexit, mais sur noir sur blanc, ce que cela voudra dire pour tout le monde.
Quelque chose d'encore extrêmement flou, effectivement, de la part de Theresa May d'ailleurs également, sortir hors du marché, hors de l'Union, mélanger les deux, union à la norvégienne, libre-échange à la canadienne, tout ça est extrêmement peu clair. La crainte d'un non-accord, d'un no-deal.
C'est un autre problème, c'est que nous avons un gouvernement qui est tout à fait divisé sur toutes ces questions.
Ah, vous avez une première ministre qui est encore en vie par miracle.
Qui n'arrive même pas à avoir une position de départ dans les négociations sur une future relation économique avec l'Union européenne, la question des douanes, la question du marché intérieur. Ils se déchirent entre eux, donc... C'est une situation assez chaotique et assez catastrophique, finalement.
Richard Corbett, une dernière chose. Donc, est-ce qu'un no deal est possible? Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir sans deal, ce qui serait une catastrophe, en l'état, 9 mois avant?
Si on peut quoi?
Si on peut sortir sans deal, si le Brexit peut se faire sans qu'un deal ait pu être passé, le fameux no deal.
Brexit sans deal, sans accord,
exactement.
C'est une catastrophe pour tout le monde parce que c'est une vide juridique sur toutes les questions, les échanges commerciaux, les droits des avions de s'atterrir, toutes sortes de choses. C'est complètement chaotique et catastrophique pour tout le monde.
Et là aussi, ce sera rediscuté ce week-end, en même temps que ces sujets sur les migrants qui vont évidemment manger une bonne partie de ce sommet européen des 27 et 28 juin prochain. Merci mille fois de votre présence dans Un jour dans le monde, Richard Corbett. Merci à vous aussi, François Gémen.
France Inter, Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Et la suite d'Un jour dans le monde en reportage en Grèce, sous les radars avec Virginie Pironon, Le Monde selon Trump, saison 2, Grégory Philips qui va nous parler notamment de la nouvelle Égérie du Parti Républicain. Et puis Anthony Bélanger, bonsoir.
Bonsoir.
Que vous pensez qu'Erdogan est peut-être une chance pour la Turquie?
Non.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
En tout cas, on va essayer de comprendre comment la moitié de ces 80 millions de Turcs votent encore pour Erdogan, encore et toujours.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète continue avec Tom Misch, It Runs Through Me. Thank you.
I love the way it flows. I love the way it grows. There's something in this sound that takes me far. It's like a special song. Can move my mood along. What I cannot say, you'll hear through my guitar. She told me at the bass line, and everything will be alright. She told me that the groove is mine. It will take us through the night. And where I'll go, can't explain, I'll never know. But it's beautiful. You can't take this away from me. That it brings. Remember skating down the road towards the park. I could never say no. You with that summer glow. The music gives me sun when winter starts. She told me at the baseline, and everything will be alright. She told me that the beat is mine. It will rock us through the night. And where I go, but it's beautiful. You can't take this away from me.
Tommy, oh, She Runs Through Me sur France Inter, sous les radars. Et Virginie Pironon, c'est maintenant.
Hello. France Inter.
Good evening and welcome.
Gerasimashvili Kapion.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et Virginie, vous revenez d'abord sur la vague de violence qui a secoué le Nigeria ce week-end.
Au moins 86 personnes tuées dans des violences communautaires. Alors cela fait des décennies que cela dure dans le pays, mais cette fois les affrontements ont pris des proportions inédites. Des éleveurs nomades du nord du pays, en majorité musulmans, s'en sont pris à des fermiers chrétiens sédentarisés dans l'état du Plateau, au centre du pays. Au cœur des confrontations entre bergers nomades et fermiers, les terres pour le bétail. C'est ce qu'explique Ali Moussa Mohamed, un des leaders du mouvement des jeunes bergers Fulani.
Pour lui, la migration des bergers nomades du nord au sud est d'abord causée par la sécheresse qui touche le nord du Nigeria. Les terres sont de plus en plus arides et ne suffisent plus à nourrir les bêtes. Et puis la présence des bergers nomades sur les terres des fermiers s'explique aussi par le fait que les fermiers sédentaires se sont accaparés petit à petit les routes empruntées par les nomades. L'année dernière, les affrontements pour ces terres ont fait des centaines de morts. Hier, un couvre-feu a été instauré dans le centre du Nigeria et l'armée déployée pour éviter de nouveaux affrontements.
On reste en Afrique, Virginie, où tous les fans de foot ne peuvent pas suivre les retransmissions du mondial.
C'est le cas au Nigeria, mais aussi au Congo, où les coupures de courant et les délestages plombent les retransmissions. À Brazzaville, c'est un reportage de RFI, les habitants ont trouvé la parade, ils se rendent au ciné-foot. Les salles sont alimentées par groupes électrogènes. Guilin est gestionnaire d'un cinéma de la capitale du Congo. Il le dit au micro de Loïcia Martial, l'électricité fournie par la compagnie publique, quand il y en a, est loin d'être suffisante.
Ça ne marche pas. Nous avons trois jours, mais une seule journée, c'est pour les délestages. Mais la tension aussi n'est pas bonne. Et puis, ce n'est pas aussi stable.
Et pour suivre les matchs, les amateurs de foot préfèrent donc débourser entre 15 et 30 centimes d'euros. C'est le cas de ce supporter.
À chaque moment, tu préfères aller dans le ciné-foot, on a l'occasion de voir le match. On paye 200, il y a des matchs à 100 francs aussi.
Voilà, un match à 100 francs CFA. Mmh. Au Congo, les coupures prolongées d'électricité sont quasi quotidiennes, même si le pays a fait des efforts ces 20 dernières années en multipliant par 6 sa production d'électricité.
Et puisqu'on est dans le foot, tiens, poursuivons avec cette Coupe du Monde. Cette fois, vous nous emmenez à Saransk en Russie.
Et ce que vous entendez là, ce sont des supporters iraniens avant le match Iran-Portugal, coup d'envoi à 20h. Certains supporters ont passé toute la nuit à faire du bruit sous les fenêtres de l'hôtel où dorment les Portugais. Leur objectif étant d'empêcher les joueurs de bien dormir. Et ça a dû marcher, figurez-vous, puisqu'au milieu de la nuit, Cristiano Ronaldo a été filmé à la fenêtre en train de leur montrer qu'il avait très envie de dormir. On verra ce soir si la star portugaise a des cernes.
On termine avec ce projet un peu fou d'un scientifique américain faire adopter aux États-Unis des chiens de Tchernobyl. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, il s'appelle Lucas Hickson. Il s'est rendu pour la première fois à Tchernobyl en Ukraine il y a 5 ans. Et ce qui l'a surpris à son arrivée, c'est le nombre de chiens errants. Environ 1 000 000, ce sont les descendants des chiens des habitants qui ont fui la région en 86 au moment de la catastrophe nucléaire. Eh bien, ces chiens, Lucas Hickson a décidé d'en faire adopter 200 dans les 2 ans qui viennent, les plus jeunes par des familles américaines. Le scientifique explique que ses équipes vérifient sur place que les chiots ne sont pas contaminés, ce qui est très rare en fait, pour que les gens qui les prendront ensuite dans leurs bras n'aient rien à craindre. Les chiens sont lavés, leurs poils sont décontaminés s'il le faut, ils sont ensuite vaccinés et stérilisés. La campagne financée par une fondation américaine connaît un vif succès. La fondation a recherché 200 familles pour accueillir des chiens âgés de moins d'1 an et elle a reçu plus de 300 réponses d'adoption en seulement quelques jours.
Voilà, donc les enfants seul, c'est non, mais les chiens abandonnés de Tchernobyl, c'est oui, ça s'appelle l'Amérique. Merci beaucoup Virginie Pironon.
France Inter,
Doha, Harare,
Jérusalem,
Mekka,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
C'est en Grèce que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde ce soir. Je vais vous expliquer dans un instant ce que vous entendez derrière moi en Grèce. Dans une mine d'or, à proximité d'une mine d'or, 400 tonnes d'or qu'une société canadienne entend exploiter, mais que les habitants contestent. Bonsoir Angélique Kourounis.
Bonsoir.
Vous allez nous expliquer, Angélique, ce qui se passe dans ce nord du pays où est située cette mine. Ça commence au tribunal il y a quelques jours.
Présent. Fier et soutenu par le village en entier qui a fait le déplacement, un à un, les 25 accusés répondent à l'appel de la juge. Pour s'être opposé aux activités du géant minier Eldorado Gold, il risque plusieurs dizaines d'années de prison. Madame Maria, 70 ans, était du voyage.
Je suis venue aujourd'hui parce que 25 jeunes de chez moi sont jugés parce qu'ils ont défendu en première ligne leur village. Et la moindre des choses que je puisse faire pour ces jeunes gens et leurs familles, c'est de me trouver à leur côté aujourd'hui. Notre combat continue parce que c'est un combat pour la survie.
Finalement, le procès est reporté. Ce n'est qu'un répit, mais pour l'un des avocats de la défense, c'est bon signe.
Ils leur ont mis tout le code pénal sur le dos. Sous prétexte du crime collectif, il n'y a pas mention d'une seule action qui puisse être attribuée à une personne en particulier. Qui a fait quoi? Y a-t-il seulement identification d'un seul individu?
L'affaire remonte à 4 ans. Les familles du village étaient montées pique-niquer un dimanche, comme elles en avaient l'habitude depuis toujours, sur la montagne du Krakavo. Mais la police privée de la société canadienne leur en a interdit l'accès. La promenade tourne à l'affrontement, le ton monte et les forces anti-émeutes ont chargé.
Ils ont jeté des arbres et les ont jetés en travers de la route.
L'autre fois, ils nous ont tiré dessus avec des balles en plastique.
Depuis, la tension règne dans toute la région. Des mères de famille sont gardées à vue plusieurs heures. Des jeunes sont violemment frappés par la police. Des pères de famille arrêtés au petit matin. Un point de non-retour pour Toli Papagiorgiou, 79 ans, l'âme de cette révolte. Toli Papagiorgiou est la bête noire des sociétés minières canadiennes et pas seulement. Il compte pas moins de 125 procès à son actif et 3 fois ses adversaires ont tenté de le tuer. Dans les années 80, il avait déjà remporté une victoire avec des activistes bulgares et turcs sur les sociétés canadiennes qui voulaient exploiter le sous-sol près des frontières turco-bulgaro-grecques. Mais les dégâts dans la région sont d'ores et déjà irréversibles.
À Stratonis, ce qui ressemble à une plage, avant, ça n'existait pas. En fait, ce sont des rejets industriels de l'exploitation aurifère. Si tu remues le sable, en dessous, tu trouveras des déchets industriels. Selon les déclarations même de la société, ces déchets contiennent des taux de plomb 20 fois supérieurs à la norme industrielle tolérée. Pareil pour l'arsenic, le cadmium, et j'en passe. Du coup, ne serait-ce que toucher ou marcher sur ce sol est très dangereux.
Pragmatique, Toli Papagiorgiou attaque la société minière sur le terrain, là où elle veut ouvrir la mine, devant les tribunaux pour démontrer qu'elle travaille sans autorisation et sans étude environnementale légale, et surtout au Canada, devant les actionnaires d'Eldorado Gold qui voient leurs actions s'effondrer.
Avec l'action à 0,95 USD, avec un budget désormais à peine suffisant, avec des actionnaires qui littéralement commencent à hurler, le retard dans l'attribution des permis jusqu'en décembre met la société dans une situation très précaire.
Sa compagne Maria Cadorlu n'a pas hésité, elle, à parler aux actionnaires, pas n'importe où, au Parlement même d'Ottawa, au Canada.
Les Canadiens, du moins ceux qui ne dépendent pas économiquement de l'industrie minière, ressentent un grand malaise par rapport à ce que le Canada fait partout dans le monde et ce qui leur a valu le nom de sales Canadiens.
En face, la société canadienne met en avant les quelques 1600 emplois que crée cet investissement. Du coup, Yanis Boutaris, maire de Thessalonique, y est très favorable.
Je suis pour Skouries. S'ils ont passé toutes les études environnementales exigées, si tous les critères censés protéger l'environnement sont réunis, alors un dégât qui peut être réparé ou remplacé n'est pas la fin du monde.
Tolly, qui pourtant est son ami, s'en étrangle.
Il n'y a aucun moyen de remettre l'environnement dans l'état précédent. Cette forêt n'a pas été élaguée pour mieux repartir. Elle a été éradiquée. Les arbres ont été arrachés à la racine. Aucun moyen de faire repartir cette forêt. La plus terrible des pollutions avec les pires conséquences, c'est que la population locale est divisée en deux parties qui se haïssent mutuellement. Il y a des familles où le père travaille à la mine et ses enfants font de la résistance dans la montagne. Des frères qui ne se parlent plus et des villages entiers qui se détestent. Hélas, je crains que même quand tout cela sera fini, cette ségrégation va perdurer de nombreuses années.
Nous avons voulu joindre la filiale grecque d'Eldorado Gold à Athènes pour vérifier ou infirmer toutes ces accusations, mais elle n'a jamais voulu nous répondre. En 4 ans de forage, l'eau qui était potable dans la région ne l'est plus. La police d'Eldorado Gold interdit l'accès aux montagnes qui entourent les futurs puits. Et selon les opposants au projet, si la mine fonctionne, c'est un trou de 900 mètres de profondeur pour un diamètre de 600 qui sera ouvert, d'où plus de 3000 tonnes de poussière chargées de métaux lourds seront propulsées chaque heure au-dessus des villages de la calcidique. Cette troisième région touristique du pays sera donc condamnée, le tout à 2 heures de route de la seconde ville du pays. Thessalonique.
Angélique Coronis, la bataille des mines d'or en Grèce pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Voici Saint-Germain sur France Inter. Sure thing. Ça s'appelle Sure Thing, Saint-Germain, sur France Inter.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Es.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le monde selon Trump et Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Grégory, avec votre président qui est furieux aujourd'hui contre un restaurant de la banlieue Washington, il l'a écrit sur Twitter, alors il l'a fait comme un client énervé, puisqu'on va dire quel est le site, c'est pas grave, il l'a fait sur TripAdvisor. Et pourquoi ce courroux présidentiel alors ?
Alors en fait, tout a commencé vendredi soir. La porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, qui est assez connue ici, vous savez, c'est elle qui fait les points presse quotidiens depuis cette salle au fauteuil bleu de la Maison-Blanche. Sarah Sanders donc va dîner avec des amis dans un restaurant de Lexington en Virginie qui s'appelle The Red Hen, la poule rouge. Mais au début du repas, la patronne du restaurant vient la voir et lui dit qu'elle refuse de servir la représentante de ce gouvernement inhumain. Allusion bien sûr au dossier des familles de migrants qui sont séparés à la frontière avec le Mexique. Sanders se lève, s'en va et raconte l'incident sur son compte Twitter. Et donc ce matin, le 45e président des États-Unis réagit lui aussi sur Twitter avec un message effectivement qui pourrait ressembler à ceux qu'on laisse sur TripAdvisor. Les portes, les verrières de ce restaurant sont immondes, écrit Trump. J'ai toujours dit que si un resto était sale à l'extérieur, eh bien il l'était aussi à l'intérieur. Bref, voilà la restauratrice et le restaurant rhabillés pour l'hiver. Vous me direz que c'est quand même assez peu commun de voir un président américain, quelles que soient les circonstances, descendre en flèche comme ça à un restaurant.
Voilà, bah si j'étais TripAdvisor, en tout cas, je le mettrais sous verre ce tweet parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. Alors au-delà de Trump, quand même, il y a pas mal d'incidents de ce type en ce moment chez vous, Grégory. Les États-Unis ont toujours été un pays polarisé, mais en ce moment, et sur cette question, on est au-delà de la polarisation quand même.
Oui, et d'ailleurs, c'est le troisième incident du type dans des restaurants. Il est arrivé à peu près la même chose la semaine dernière à Kirsten Nielsen, la ministre de la Sécurité intérieure, et à Stephen Miller, le conseiller de Trump sur les questions d'immigration. Tous les deux pris à partie par des manifestants. Une précision, ils dînaient ces soirs-là dans des restaurants mexicains. Et ce week-end, la représentante démocrate de l'État de Californie, Maxine Waters, a même, lors d'une manifestation à San Diego, appelé à des actions du même type. And if you see anybody from that
cabinet in a restaurant, si vous croisez n'importe quel membre de ce gouvernement dans un restaurant, dans un magasin, dans une station-service, vous sortez et vous appelez la foule et vous leur tombez dessus. Vous leur dites qu'ils ne sont plus les bienvenus, où que ce soit. Manifestons partout où on doit le faire. Let's make sure we show up
wherever we have to show up. Voilà, vous l'entendez, Fabienne, situation très tendue sur cette question des migrants, même si le Washington Post, quotidien plutôt démocrate évidemment, demande ce matin dans un éditorial qu'on laisse l'équipe Trump manger en paix et qu'on arrête ces opérations de harcèlement qui débordent, c'est vrai, du cadre politique.
Alors Grégory, vous vouliez ce soir nous présenter une jeune femme, c'est l'étoile montante du Trumpisme. Elle a 28 ans, elle s'appelle Candace Owens, c'est la figure conservatrice dont tout le monde parle, et pourquoi donc ?
Oui, et on va sans doute en parler encore dans les prochains mois. Candace Owens, donc 28 ans, jeune femme africaine-américaine. Elle dirige aujourd'hui une association d'étudiants conservateurs, invitée très régulière de Fox and Friends, l'émission favorite du président qui visiblement adore le tempérament de cette jeune femme. Elle est très conservatrice, anti-avortement. Elle réclame régulièrement d'envoyer le couple Clinton en prison. Elle parle de Black Lives Matter comme un mouvement de pleurnichard. Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez... Oui. Radical, on va dire, et sa voix se fait de plus en plus entendre. Presque 600 000 followers sur Twitter. La jeune femme fait aussi des vidéos sur Internet. 7 millions de vues au total. Celle-ci, par exemple, où dans ce sketch, elle joue son coming out pour annoncer à ses parents qu'elle est républicaine.
Mom.
Maman, je suis lesbienne. J'aime les filles. Oh, ma chérie, on l'a toujours su. L'essentiel pour nous, c'est que notre enfant soit heureuse. On t'aime. Quoi qu'il arrive. Oh, merci. Ah oui, et puis je pense aussi que je suis plutôt du côté des conservateurs. Je comprends pas. J'arrive plus à respirer. Non, mais ça va, c'est juste que j'ai des idées plutôt conservatrices. Mais ma chérie, tu es noire. Écoute, cette élection était un peu folle. Il y a beaucoup d'émotions. On va te présenter quelqu'un à qui tu pourras parler et qui pourra travailler là-dessus avec toi. Non, maman, c'est ce que je suis. Mais ma chérie, tu ne veux pas juste être gay.
Voilà, les sketchs de Candace Owens sur Internet.
Alors c'est moyen drôle, mais c'est peut-être la traduction en même temps, Greg.
Elle joue les trois rôles, c'est un peu compliqué, mais non, c'est assez efficace. En tout cas, dans les prochains mois, elle sera peut-être l'arme ultime dans la galaxie Trump pour aller chercher les voix des jeunes et des noirs. D'ailleurs, elle a été adoubée dans un tweet, parce que ici, tout se fait sur Twitter sous cette présidence, par le rappeur Kanye West, qui lui aussi la trouve formidable.
Bah écoutez, quand on est adoubé par Kanye West, alors on peut mourir. Merci beaucoup, Grégory Philippe sur France Inter.
Le 18-20, Fabienne Sintès. Sur France Inter.
Et l'édito d'Anthony Bélanger. Anthony, la victoire d'Erdogan surprend en Turquie ce qui, ici, imaginer une usure du pouvoir.
Et oui, on les comprend. Hein. Recep Tayyip Erdogan et son parti, l'AKP, sont au pouvoir sans discontinuer depuis 2002. 16 longues années pour ceux qui, en Turquie comme en Europe, eh bien, détestent cette version conservatrice et pieuse de la politique turque. Mais d'abord, commençons par dire que les islamo-conservateurs d'Erdogan ne sortent pas de nulle part. Hein. Il y a toujours eu une composante moins laïque, moins europhile, plus religieuse, plus rurale, plus industrieuse dans la vie politique moderne turque, du Parti du Salut National dans les années 80 au Parti de la Prospérité, en passant par le Parti de la Vertu ou encore le Parti de la Félicité, j'invente rien, la tendance islamo-conservatrice a toujours travaillé le corps politique turc avec une constante, la volonté de revanche de la Turquie intérieure sur la Turquie maritime et urbaine. D'ailleurs, un coup d'œil sur la carte électorale d'hier est de ce point de vue absolument éclairant. L'ensemble de l'Anatolie intérieure a voté Erdogan avec souvent des scores impressionnants, plus de 70%. Seules deux régions se distinguent. L'extrême est du pays, où les Kurdes dominent, qui ont voté pour leur candidat, M. Demirtas, et puis l'extrême ouest du pays, qui a voté Muharrem İnce, le candidat républicain et progressiste. En clair, il s'agit d'Istanbul et de la côte touristique.
Donc c'est toujours le Turc des villes contre Turc des champs, en gros.
C'est ça, avec un problème de déphasage que nous, Européens, avons toujours lorsque nous regardons la Turquie. Les Turcs que nous connaissons, ceux que nous rencontrons aisément, vous savez, à Istanbul, dans les cafés bohèmes de Taksim ou de Galata, dans les universités, ou encore ceux que l'on fréquente, dans les stations balnéaires, sur les plages ou dans les boîtes de la frange méditerranéenne, eh bien cela parle notre langue, ou l'anglais, ou encore l'allemand. Cela vote tous Muharrem İnce, rêve d'Europe et déteste Erdogan. Mais ils sont très loin de représenter l'essentiel des 80 millions de Turcs qui, eux, vivent dans des villes ennuyeuses et industrieuses du centre du pays, ne parlent pas des langues européennes et remercient tous les jours Erdogan de leur avoir rendu leur fierté et donné le pouvoir. Car cette Turquie profonde qui a pris sa revanche en 2002 avec l'élection des islamo-conservateurs de l'AKP. Des décennies durant, ils ont été humiliés par l'intelligentsia stambouliote. Aujourd'hui encore, ils se rangent derrière leur chef pour empêcher le retour de ceux qui les ont toujours considérés comme des bouseux de province, des grenouilles de mosquée. La perspective d'une vraie concurrence les a hier mobilisés en masse.
Et puis il y a aussi l'aspect économique, et eux vous dites que la Turquie est une vraie puissance.
Oui, et c'est très très important à comprendre. Voilà un pays qui a été pendant 5 siècles au cœur d'un des plus grands empires au monde, l'Empire ottoman, et qui au XXe siècle s'est retrouvé appauvri et relégué aux marges de l'histoire. En 2002, l'année de l'élection de l'AKP, la Turquie faisait appel au FMI, comme un vulgaire pays ruiné qu'elle était d'ailleurs. L'inflation dépassait les 80% annuels, la dette culminait à près de 80% d'une richesse nationale qui se traînait au niveau d'un pays d'Afrique. Dix ans plus tard, la richesse de la Turquie a été multipliée par 4. Son inflation a été divisée par plus de 10. Elle est aujourd'hui à peine plus élevée qu'en Europe. Et sa dette quasi effacée. Mieux encore, le pays s'est doté d'infrastructures absolument impressionnantes. Nouveau pont sur le Bosphore, réseaux géants de métro et de trains, autoroutes flambant neuves et même un nouvel aéroport international inauguré il y a quelques jours à peine en pleine campagne électorale. Des mosquées aussi, d'énormes mosquées, partout des mosquées. Alors bien sûr, il ne faut jamais oublier la folie répressive qui s'est abattue sur le pays depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, et sur les médias aussi. Bien sûr, Erdogan et son palais de 1000 pièces ont des allures de satrape oriental, mais si vous n'expliquez pas la renaissance économique turque et la revanche de la province turque sur les villes, vous ne rendez ni justice à la vérité, ni à la compréhension, ni surtout à un peuple turc si politique et si fin.
Anthony Bélanger, merci beaucoup, à très vite, le 18-20. La suite, c'est le journal de Pierre Veil, et puis le téléphone sonne avec Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, pour répondre à vos questions.